Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Vous êtes bien sur la radio Nzamba Agatika Kawe, merci pour votre fidélité. C'est l'heure du journal en français. Donc voici d'abord les principales articulations. Aujourd'hui, 28 août 2023, c'est le 23e anniversaire de la signature de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Le parti Fodebu et l'ONG locale Parsem convergent pour dire que le contenu de cet accord reste encore à préserver et à réhabiliter. Et puis, après, demain, le 30 août, le monde entier va célébrer la journée internationale des victimes et des disparitions forcées. L'occasion pour la campagne d'Ondesa de regretter cette personne enlevée au cours de l'année 2021 par des agents de l'armée burundaise. Enfin, pénurie du sucre se soumet dans la province de Kayanza. Le prix d'un kilo oscille entre 8 et 10 000 francs burundais. La population se lamente. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Parlons de criminalité pour commencer ce journal. Un corps sans vie d'un homme âgé d'une quarantaine d'années a été retrouvé pendant sur une corde dans son domicile. C'était ce dimanche dans la colline Guifre en commune Matongo de la province Kayanza. Des sources administratives disent que le défunt était rentré tard la nuit en état d'ébriété, mais que les causes de ce suicide restent encore inconnues. Signalons qu'il y a environ 4 semaines, un autre homme de la même colline avait aussi été retrouvé mort dans les mêmes circonstances. Et puis, commémoration ce 28 août 2023 du 23e anniversaire de la signature de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Selon Léon Sengendakumana, vice-président de ce parti Fodebu, les Burundais ont encore besoin de cet accord parce que la réconciliation des Burundais n'a pas encore été effective. La pratique de l'exclusion reste d'actualité. Il demande à ce Burundais épris de paix de se lever comme un seul homme et exiger la réhabilitation de cet accord. Suivez.
Cet accord d'Arusha a été interprété différemment par rapport à sa mission. Il y a un groupe qui a considéré l'accord d'Arusha comme un accord de paix et de réconciliation, c'est-à-dire qui devait immédiatement après sa signature ramener la paix et la sécurité au Burundi et réconcilier le peuple burundais. Un deuxième groupe considère l'accord d'Arusha comme un non-lieu. Ce groupe considère cet accord comme une compromission entre le parti Iprona et le Fodebu. Soit disant que les premiers Iprona ont renversé les institutions démocratiquement et lui a assassiné le président Étienne Ndadaye, et pour le deuxième groupe, le Fodebu, que le Fodebu a commis un génocide contre les Tutsis en 1993. En réalité, le troisième groupe, et c'est le groupe qui a raison, c'est le groupe qui considère que l'accord d'Arusha est là pour aider les Burundais à rechercher la paix, à rechercher la sécurité, à rechercher la réconciliation et la cohabitation pacifique des Burundais, à chercher le développement du Burundi pour faire du Burundi une nation digne, une nation unie, une nation réconciliée, une nation prospère. C'est ce groupe qui est en train de revendiquer aujourd'hui que l'accord d'Arusha soit réhabilité, que l'accord d'Arusha reste le fondement de la réconciliation des Burundais, reste le fondement du développement du Burundi. Il pousse plus loin d'ailleurs, il parle de la refondation. Cet accord reste le fondement de la refondation de la nation burundaise. Il n'y a aucun Burundais qui peut me prouver que maintenant la question de la réconciliation des Burundais a été effective, pour autant que même la commission vérité réconciliation n'a pas encore remis ce rapport, même si ce n'est pas une commission conforme à l'accord d'Arusha. Il n'y a personne qui peut me dire que les Burundais sont réconciliés, qu'il n'y a plus de réflexes ethniques, qu'il n'y a plus de réflexes d'exclusion. Ce qui prouve que le premier principe moteur de l'accord d'Arusha reste d'actualité. Il n'y a personne qui peut me prouver aujourd'hui que la démocratie et la bonne gouvernance se sont consolidées dans ce pays. Il n'y a personne qui peut me prouver que l'armée, la police, le service national de renseignement ne sont plus au service d'un parti politique ou au service d'une ethnie. Encore moins, personne ne peut me prouver que le Burundi a été reconstruit, que le Burundi est développé. Le Burundi a encore besoin de cet accord d'Arusha. C'est pour cette raison que j'interpelle tous les Burundais, en commençant par les institutions, de se lever et d'exiger que l'accord d'Arusha soit réhabilité.
L'ONG locale La Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités post-mêmes va dans le même sens. Elle estime qu'il faut une évaluation de la mise en application de cet accord. Fassane Koumana, directeur national de la PASEM, trouve que les crises politiques et l'exclusion que l'accord d'Arusha voulait arrêter sont toujours là et que cela ne permettra jamais le pays à atteindre la voie du développement. Suivez.
Cet accord avait cimenté la cohésion nationale dans notre pays. L'accord avait permis de mettre fin à la guerre qui avait été caractérisée par des crises politiques répétitives qui avaient pesé lourdement sur le développement économique de notre pays. D'abord, pour passer mon opposé, vraiment atteindre la voie de l'émergence, si on ne dit pas au revoir définitivement aux crises politiques. Si on est au niveau du coût, déjà en 1972, le PIB a reculé de 6% suite à la crise de 1972. De 1993 à 2005, le PIB a reculé de 33%. En 2015, le PIB a reculé d'1% et il y a eu une stagnation de la croissance économique. Donc, l'accord d'Arusha avait permis de construire un Burundi sûr pour tous et pour chacun. Outre le partage du pouvoir pour asseoir la concorde nationale pour éviter l'exclusion, l'accord d'Arusha avait vraiment signé la renaissance du Burundi parce qu'il y avait d'autres principes contenus de l'accord d'Arusha qui devaient être érigés à mode de gouvernement, dont il s'agissait de l'alternance au pouvoir, la démocratie, les élections, les droits de l'homme, la lutte contre la corruption, l'indépendance de la justice, le développement économique et le partenariat avec nos partenaires techniques et financiers. Mais actuellement, si nous ne faisons pas attention, on dirait que certains de ces principes commencent à se volatiliser. L'exclusion commence à être vue par certains comme si elle était en train de réapparaître. De plus belle, surtout l'exclusion au niveau politique, ethnique, la corruption actuellement a pignon sur rue, la violation des droits de l'homme, la pauvreté s'installe encore une fois. On peut se demander alors les résultats de cet accord, 23 ans après sa signature. Ça veut dire que nous devons faire une introspection. De telles occasions devraient offrir l'occasion de débattre avec sincérité, avoir un discours des autorités officielles sur l'état de l'union, sur l'état de la cohésion nationale. Parce que l'accord d'Arusha avait complété le déficit constaté dans la charte de l'unité nationale qui n'avait pas permis justement qu'il n'y ait plus de crise politique. Et j'imagine alors qu'on ne peut pas renier l'histoire. L'accord d'Arusha appartient à l'histoire du Burundi, appartient au patrimoine national. On doit vraiment le sauvegarder. C'est pour cela que Parsem estime qu'il devait y avoir une évaluation.
Inzamba.
Dans la suite de ce journal, trois administrateurs communaux viennent d'être suspendus de leurs fonctions par une ordonnance ministérielle du ministre de l'Intérieur, Martin Inelesse. Il s'agit de Renova Snaigaya, administrateur de la commune Mokaza en mairie de Bujumbura, Gilbert Nyandri, administrateur de la commune Kayanza, ainsi que Dismas Nsajima, un administrateur de la commune Usoni de la province de Kirundo. Renova Snaigaya est accusé du manque de suivi de la commercialisation des produits de première nécessité. Gilbert Nyandri est accusé d'insubordination et de manque d'encadrement de la population. Et enfin, Dismas Nsajima est accusé par le ministre de participer dans la commercialisation des produits destinés à la population de Usoni. Dans la province de Ngozi, ce sont les parents de la jeune fille résidant dans la colline de Rumbanga, commune Usiga, dans la province de Ngozi, qui réclament justice. Cette fille dit avoir été séquestrée et subi une tentative de viol la semaine dernière de la part d'un enseignant de l'école Ekufo Rumbanga, connu sous le nom de Venus Nyonguru. Les autorités policières de la province de Ngozi ont annoncé qu'ils vont entamer des enquêtes approfondies. On fait le point avec Janvier Arugira.
Selon les déclarations des parents de la jeune fille, l'enseignant Venus Nyonguru aurait sollicité leur fille pour des relations intimes lors d'une rencontre qui a eu lieu mercredi dernier. En outre, il aurait proféré des menaces envers la jeune fille, affirmant qu'elle jouerait l'année prochaine en classe de deuxième si elle refusait ses offenses. Les sources apportent que même après le refus de la jeune fille, l'enseignant aurait tenté des gestes déplacés à son encontre. Face au sort aux filles, il aurait réagi violemment à la frappa et en déchira sa jupe. Des passants et des résidents locaux ont survenu pour porter secours à la jeune fille suite à ses appels à l'aide. Les parents ont informé les autorités de l'école à Rukecho dès le lendemain de l'incident. Les responsables ont proposé que l'enseignant et les parents se réconcilient, proposition qui a été rejetée par ces derniers. En revanche, les parents ont insisté pour que des poursuites judiciaires soient engagées contre l'enseignant. D'après les mêmes sources, il semblerait que ce ne sont pas la première fois que l'enseignant soit accusé de comportements inappropriés similaires. Il aurait déjà été impliqué dans une affaire similaire, étant accusé d'avoir provoqué une grossesse chez une fille de 5e année de la même école. Cet incident avait conduit à son arrestation, mais il aurait été relâché après des négociations avec les parents de l'élève concerné. Venite aurait alors réglé une amende de 500 000 francs burundais. La police d'Ngozi a filmé pas avoir eu connaissance de cet incident. Cependant, elle a manifesté son engagement à lancer des enquêtes pour éclaircir la situation et veiller à ce que toute personne responsable de tels actes soit poursuivie conformément à la loi.
Je le disais en titre, cette personne a été enlevée au cours de l'année 2021 par les militaires burundais. Cela transparaît dans une publication rendue publique la semaine dernière par la campagne Ndondeza. C'est au moment où le monde entier s'apprête à célébrer ce 30 août la journée internationale dédiée aux victimes des disparitions forcées. Pacifique Nahazoué, président de la campagne Ndondeza, dit que les familles de ces victimes ont tout fait pour chercher les leurs, mais en vain. Il interpelle les autorités du pays à tout faire pour identifier les auteurs de ces disparitions et les punir sérieusement. Écoutez.
La semaine dernière, trois rapports ont été publiés. Il s'agit d'un rapport sur la disparition forcée d'Isaac Ndouimana, un étudiant burundais en médecine au Kenya, qui était en vacances au Burundi et qui a été enlevé par des agents du renseignement militaire le 1er septembre 2021, alors qu'il sortait d'une fête familiale au messe des officiers de la garnison de Bujumbura. Le lendemain, le 2 septembre 2021, son ami, le caporal chef Mélance Ndayishimiye, qui était réceptionniste à l'hôtel militaire tout près du mess des officiers, a été arrêté à son lieu de service, encore une fois, par des agents du renseignement militaire qui ont été bien identifiés. Les deux, depuis leur arrestation, restent introuvables. Le deuxième rapport a porté sur la disparition forcée de Selemani Niyonzima, un militant du parti MSD, et de son ami Venant Kayobera alias Amadi, militant du parti CNL, arrêté par le renseignement militaire le 31 juillet 2021. Selemani Niyonzima a été arrêté à son lieu de travail dans une pharmacie vétérinaire sise à la gare du Nord à Kamenge, donc à Bujumbura. Venant Kayobera a lui été arrêté à son lieu de travail au parking du Kotebu où il était rabatteur. Depuis leur arrestation, les deux jeunes hommes n'ont pas été retrouvés également. Le troisième rapport a porté sur la disparition forcée de trois personnes. D'abord, Charles Hamenimana, un ancien militaire burundais à la retraite, évangéliste de l'église anglicane à Mabanda, qui a été arrêté par des éléments du renseignement militaire le 15 mai 2021 sur la route Mabanda Nyanzarak. Il a été également ensuite le cas de la disparition forcée du septuagénaire Juvenal Ndereyimana, qui est aussi un ancien militaire burundais à la retraite, vivant en commune Songa, mais qui a été enlevé au chef-lieu de la commune Matana, en province de Bururi, par des agents du renseignement militaire. Il a été enlevé en même temps que l'avocat maître Tade Kanungeko, qui a été également arrêté au chef-lieu de la commune Matana le 10 juin 2021. Ils ont été arrêtés par des agents du renseignement militaire. Les trois cas ont en commun le fait qu'avant leur arrestation, ils ont été piégés par des agents du renseignement militaire qui promettaient de les rencontrer pour différentes raisons. Et sur le lieu de rencontre, ils ont plutôt trouvé un pick-up de l'armée à bord duquel se trouvaient des agents du renseignement militaire qui les ont vus violemment saisi, jeté dans les véhicules et puis emporté vers des lieux jusqu'ici inconnus. Les familles des victimes ont tout fait pour retrouver les leurs. Ils les ont cherchés dans différents cachots. Les membres des familles se sont adressés à différentes institutions du pays. Mais comme c'était le cas dans nos précédents rapports, les institutions burundaises restent muettes sur tous ces cas, y compris la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Encore une fois, nous lançons cet appel aux autorités burundaises de communiquer sur tous ces cas, surtout le général Prime Niyongabo, chef de l'armée burundaise, qui devrait éclairer l'opinion et dire où l'armée a mis toutes ces personnes.
Cap sur la province de Kayanza, pour vous dire qu'une pénurie du sucre s'observe toujours en province de Kayanza. Même la petite quantité de sucre destinée aux quartiers et collines qui se fait que très rarement, et c'est une poignée de gens qui ne reçoivent qu'entre 1 ou 2 kilos. Les habitants demandent à la Sassoumo de distribuer ce produit en quantité suffisante comme auparavant. À défaut, ils invitent le gouvernement à permettre aux opérateurs économiques de l'importer. Il indique qu'actuellement, le prix d'un kilo de sucre peut varier entre 8 et 10 000 francs burundais sur le marché noir. Les détails avec Eddie Claude Nina Hazoué.
Selon les habitants de Kayanza, ils viennent de passer plus de 2 semaines sans sucre. En plus, à chaque occasion qu'ils se manifestent, les chefs collinaires qui se chargent de la distribution privilégient leurs connaissances et ceux qui sont membres de leur parti politique. Ces habitants s'inquiètent de cette pénurie du sucre, étant donné que le sucre est produit au Burundi.
Cela fait 2 semaines que nous avons eu du sucre. J'ai reçu 1 kilo de sucre et d'autres ont eu 2 kilos. Mais sachez qu'il y en a qui n'ont pas eu la chance comme moi parce qu'ils n'ont rien eu lors de la distribution. Car les chefs collinaires qui se chargent de la distribution commencent à distribuer du sucre à leurs connaissances et aux membres de leur parti. Ce kilo de sucre que j'ai pu obtenir n'a même pas atteint 2 semaines. Nous avons eu cette distribution de sucre après avoir passé 2 mois sans l'avoir. Je me demande ce que nous allons faire car bientôt les enfants vont commencer l'école et le sucre est nécessaire lors de la préparation de leur petit déjeuner.
Il demande à l'État de résoudre ce problème et d'autoriser les commerçants d'importer le sucre afin d'éviter cette pénurie.
Vaut mieux que l'État revoie à la hausse le prix du sucre, mais qu'il soit disponible pour que nos enfants puissent boire de la bouillie et du thé. Si la pénurie est due à la demande qui a augmenté, vaut mieux que l'État octroie aux commerçants l'autorisation d'importer ce sucre. Nous ne comprenons pas si cette pénurie est due à une mauvaise récolte ou bien que ce ne soit pas les commerçants qui le cachent en vue de spéculer. Tout cela dépasse notre entendement.
La rédaction de la radio Inzamba Gatekakawa a contacté par téléphone le gouverneur de la province Kayanza pour qu'il nous éclaire sur la décision à prendre afin d'éviter cette pénurie, mais il n'a pas décroché son téléphone.
Parlons sport pour clore cette édition. Le championnat de football national, la Primus League, était ce week-end à sa 2e journée. Au basketball, l'arbitre aimable Nzimana vient d'être promis arbitre international par la Fédération internationale de basketball association. Les détails avec Alexandre Nyungeko.
Au football, pour commencer, le championnat national Primus League était ce week-end à sa 2e journée. Dimanche, le Kinzo au stade Runani de Buganda est venu à bout de Musongati par 1-0. Messager Ngozi à domicile au stade Rukundo a tétanisé Flambeau du Centre par 3-0. Aigle Noir, lui aussi à domicile, a battu Burundi Sport Dynamique par 1-0. C'est au moment où au stade Mucho de Muyinga, Olympic Star s'est fait piéger par Amasi Pili, score final 0-0. Samedi, au stade Ngoma de Gitega, Interstar s'est imposé sur Tel Aviv par 2-1. Vitalo, au stade Runani de Buganda, a battu Mososhuga par 1-0. Et vendredi, au stade Runani de Buganda, toujours, Tigre Noir a battu Magala FC par 1-0. Toujours au football, le sélectionneur national des hirondelles féminines, Alain Olivier Niungeko, très connu sous le sobriquet de Mutombola, a rendu publique une liste d'une 30aine de joueuses parmi lesquelles il va sélectionner celle qui va représenter le Burundi dans les matchs qualificatifs à la finale de la Coupe du Monde. Au basketball,
Aimable Mouzimane, arbitre depuis 15 ans, vient d'être promis par la Fédération Internationale de Basketball Association, la FIBA, arbitre international. Cette instance mondiale du basketball vient aussi de reconduire Christian Maniakiza et Pierre Niohandemi au poste de commissaire international de la FIBA de 2023 à 2025 pour leur sens d'organisation et de maîtrise des règlements du basketball. Bouclons par le taekwondo. Une académie de cette discipline sportive peu connue au Burundi a été ouverte ce dimanche en zone Maranvia de la commune urbaine Nonahangwa au nord-ouest de la mairie de Bujumbura. C'est dans le cadre de la vulgarisation de cette discipline qu'est le taekwondo.
Merci Alexandre Miyungeko et c'est par là que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.